Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous écouter sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les transmissions du savoir et les écoles de sagesse, avec Pierre Filiosa, orientaliste et indianiste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci de venir dans notre studio pour évoquer la transmission orale de la culture védique. Cette culture qui s'étend sur 4 millénaires, du 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Et cette culture est le départ de toutes les doctrines de l'Inde classique et aussi le socle de la culture indienne du 21e siècle. La civilisation indienne, en général, est une des plus grandes réalisations de l'humanité. Elle est moins vieille que celle de l'Égypte ou de la Mésopotamie, mais elle n'en plonge pas moins ses origines dans la préhistoire. Et elle n'est pas morte, alors que les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes ne sont plus là, pour le dire. La civilisation indienne, elle, demeure vivante. Cette survie exceptionnelle n'a pas été sans évolution ni renouvellement, mais... elle a porté jusqu'à nous par une tradition continue, une masse de textes anciens infiniment plus considérable que ce qui nous reste des vieilles littératures grecques, latines ou chinoises. Et Pierre Filiosa, avant de nous parler des techniques de récitation, de la transmission védique, de la valeur psychologique et religieuse des textes védiques et même du Veda, je crois que vous avez apporté des récitations de textes védiques pour illustrer ce que vous allez évoquer. Alors, ce sont soit des récitations en continu, soit des récitations alternées par pair. Pouvez-vous nous présenter ces chants et ces récitations ?
Ce sont des enregistrements faits au début des années 60 auprès de deux grands maîtres en récitation et en chant védique. Le premier, celui qui concerne la récitation, montre les 11 façons de réciter le même texte. Une strophe dont on torture les mots en les entremêlant les uns les autres. C'est un art qui est encore vivant puisque l'on peut trouver et enregistrer des maîtres, des brahmanes. Et puis, c'est aussi un art extrêmement ancien, et l'on sait que c'est ancien parce que l'on possède des textes dont la date ou l'époque nous est connue, dont l'Antiquité nous est connue, et qui décrivent la façon de réciter. Cela coïncide à peu près exactement avec ce qui se fait encore aujourd'hui. C'est donc cet art que je désire vous présenter aujourd'hui.
Eh bien, nous écouterons. Mais auparavant, dites-nous qu'est-ce que les Védas ?
Les Védas, c'est 4 textes. Rig Veda, Yajur Veda, Sarma Veda, Atharva Veda. Alors ces 4 textes, et ce sont les plus anciens textes de grande importance qui nous aient été conservés dans l'humanité. Il ne faut pas séparer ces textes de la religion à laquelle ils sont attachés. C'est en fait une liturgie. Et s'il y a 4 textes différents, c'est parce qu'il y a des prêtres et des fonctions différentes dans les rites de la religion védique. Le Rig Veda est un recueil de 1028 hymnes à des divinités qui est récité par un prêtre appelé Hota, dont le rôle est précisément d'invoquer les divinités en faisant leur éloge. Et cet éloge accompagne évidemment des gestes particuliers qui sont bien définis. Le rite principal est un sacrifice, des offrandes dans le feu, de lait, de beurre fondu, quelquefois des offrandes animales, et qui sont accompagnées de formules. Alors ces formules sont récitées par un prêtre particulier que l'on appelle Advaryu, et ce sont celles qui sont recueillies ensemble dans le Yajur Veda, le 2e Veda. Il y a des chants qui accompagnent ces célébrations, et ces chants sont appelés Sarma, c'est le Sarma Veda. Le Sarma Veda a pour texte, et ce sont des chants basés sur des textes tirés du Rig Veda, mais il réordonne les strophes de différents hymnes du Veda. Le texte est pour une grande part identique à celui du Rig Veda, mais il y a aussi quelques différences. Il apporte surtout une mélodie en plus. Le quatrième Veda est un peu à part. Il contient surtout des formules magiques. Et c'est l'Atharva Veda. Alors chacun de ces quatre textes a déterminé toute une littérature qui s'inscrit à la suite. Le texte, quelquefois un peu hermétique...
Et il y a des commentaires ?
Est accompagné de commentaires ou d'explications, et souvent d'explications par des mythes. Ceux-ci, ce sont les Brahmanas. À la suite des Brahmanas, et dans la même ligne, dans le même esprit d'explication ou d'amplification des rites et des formules, il y a des textes réservés que l'on appelle Aranyaka, les textes de la forêt. Je citerai tout à l'heure ces textes de la forêt à propos de la pratique de la récitation et du chant. Et puis il y a les Upanishads très célèbres qui contiennent, qui sont un peu la quintessence philosophique que l'on peut tirer de ces textes.
C'est les plus tardifs dans la période védique, parce que la période védique c'est 1500 jusqu'à l'avènement du bouddhisme. Alors, 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à l'avènement du bouddhisme. Mais j'ai bien compris que ça durait toujours.
La religion a évolué et on établit une chronologie relative des textes, parce que nous n'avons jamais de chronologie absolue. On n'a pas de date pour le Rig Veda. Et le Rig Veda, d'ailleurs, c'est une compilation dont on ne sait pas à quelle époque elle a été fixée définitivement. Mais à l'origine, il y avait des hymnes divers ayant, je ne peux pas dire divers auteurs, parce que je reviendrai sur ce point tout à l'heure. La tradition indienne et la religion indienne veut qu'il n'y ait pas d'auteur humain pour le Veda.
Ça a été insufflé par le dieu Brahma.
Quelquefois... Ceci n'est pas la doctrine la plus courante. La doctrine la plus courante, c'est que ce sont des textes sans auteur. C'est la parole qui existe par elle-même. On l'attache quelquefois au nom de Brahma. Mais Brahma est un principe qui est appelé aussi Swayambhu, c'est-à-dire né de lui-même. Et le texte est né de lui-même comme Brahma, comme le Dieu. On les identifie. Et le nom du dieu Brahma sert aussi à désigner le Veda lui-même. C'est un texte qui était considéré comme éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. Il a toujours existé et pour les hommes, c'est un texte dont on a toujours hérité. Parce qu'un disciple prend connaissance de ce texte en l'écoutant, en l'entendant d'un maître. Le maître l'a écouté d'un maître. Ce maître-là l'a écouté encore d'un autre maître. Et aussi loin qu'on remonte dans la mémoire des hommes, on n'arrive jamais à un début, on n'arrive jamais à un auteur. Donc un texte sans commencement, c'est la parole qui permet à l'homme de s'inscrire dans le bon ordre du monde.
Alors on ne peut pas dire que ce sont les Aryens qui, au moment où ils sont venus... Non,
l'origine indo-aryenne, c'est... Je crois qu'il faut laisser cette idée parce que là, nous sommes à un endroit où il n'y a plus de documents, plus aucun document. Ce que nous possédons, ce sont des textes qui sont récités d'une certaine façon par des spécialistes, par des professionnels. Ce qui est intéressant, ce n'est pas une origine. Bon, ce serait très bien d'en trouver une, mais il est bien évident qu'on n'en trouvera pas. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir ce qui existe. Alors, ce que nous avons, ce que nous connaissons, ce à quoi nous avons accès, ce que l'on peut approcher, eh bien, c'est justement cette image du sacrifice célébré pour s'inscrire dans l'ordre du monde. Il y a l'idée fondamentale que si l'on arrête tous ces rites, si l'on arrête cette récitation, eh bien, le soleil cessera de se lever, le monde ne fonctionnera plus. Il y a une unité du cosmos dont la parole est l'élément moteur.
Nous allons écouter une petite pause musicale pour nous expliquer et faire comprendre une des formes de récitation du texte védique.
Dhanim Samhita Patha Devim Vacha Pajanajanda Devastam Vishwarupa Pashavo Vadande Sano o pantre tapor jantuha anade norva gaspanu vasustutaitu dani patavataha devim vacham ajanajanta devaha ताम विश्वरूपाः पशवः वदन्ति सानः मन्त्रा इषम् ऊर्जम् दुहादात् धेनुः वाक् अस्मारे उपसुस्तुता आयितु इदानीं क्रमपाठः देवीं वाचम् वाचोपजनयन्ता अजनयन्तदेवाः देवास्ताम् ताम् विश्वरूपाः विश्वरूपाः पशवाः विश्वरूपा इति विश्वरूपाः पशवो वदन्ति वदन्तीति वदन्ति सानाः नो मन्त्रा मन्त्रेषम् इषवोर्जम् ऊर्जम् दुहादा दुहादा धेतुः धेनुर्वाक् वाघस्पारे अस्मानुपा उपसुष्टुता सुष्टुतैतु सुस्तुतेतु सुस्तुता ऐतु एत्वित्येतु.
Après avoir présenté le Veda, vous avez évoqué déjà un peu les techniques de récitation de la transmission, mais je crois qu'il y a différentes techniques.
Alors, il y a un art très complexe qui est pratiqué par des professionnels. Il y a 11 formes de récitation du même texte, la dernière s'appelant Gana, c'est la plus compliquée. Et l'on appelle Ganapati un professionnel de la récitation. Ce ne sont pas tous les brahmanes, ce sont des brahmanes qui ont le privilège de se former à cela, d'être formés à l'apprentissage du Veda, à l'enseignement ensuite, et puis à l'exécution au cours de rites religieux. Alors j'ai dit tout à l'heure que ces récitations accompagnaient les rites du sacrifice. Les rites du sacrifice ne se pratiquent plus maintenant. On en fait quelquefois des reconstitutions, mais ce n'est plus une pratique courante. La religion s'est considérablement transformée au cours de 4 millénaires. Mais les textes védiques sont toujours récités. Et c'est quelque chose qui a survécu pratiquement sans changement depuis la plus lointaine origine pour accompagner toute expérience religieuse, toute activité religieuse. Maintenant, quand on entre dans n'importe quel temple, eh bien, on entend très souvent réciter le Veda. Alors ceci est fait par des Ganapati, des brahmanes professionnels. J'ai apporté deux spécimens, deux échantillons très courts. L'un donne un exemple de développement complet des 11 modes de récitation qui a été enregistré au début des années 60 par un maître que je regrette beaucoup, qui était déjà très âgé à l'époque quand je l'ai connu. L'autre, c'est un enregistrement de chants de Samaveda qui a été fait aussi par un très grand maître. On peut encore rencontrer d'excellents maîtres de récitation védique. Il y en a même de plus en plus actuellement. Et il y a de plus en plus de manifestations. Mais en même temps que l'expansion, il y a aussi souvent une dégradation de la qualité. Je peux vous dire que j'ai regardé sur Internet tout récemment et j'ai trouvé que ce qui était présenté sur Internet ne méritait pas le nom de récitation védique réellement.
Om Namah Samavedaya Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Ograye Ayahi Vaito Yai Toyai Rinanaha Yada
soulever comme idée, vous parlez de l'oralité et de l'écriture. L'oralité a finalement peut-être plus de valeur que le témoignage de l'écriture pour la mémoire, car en fait, c'est une telle éducation que le respect de tout ce qui a été appris est toujours absolument capital ? Ou y a-t-il des innovations ?
La civilisation indienne a utilisé deux moyens de transmission, la mémoire des hommes et l'écriture. Elle a utilisé également les deux. Pour la période védique la plus ancienne, nous n'avons aucun document attestant l'existence de l'écrit. Alors, on ne peut pas dire que, ça n'est, que l'écriture, le principe de l'écriture n'existait pas. C'est toujours difficile d'affirmer quelque chose négativement. Mais on n'en connaît pas d'échantillons. Mais ce qu'on connaît très précisément, c'est justement l'effort de mémoire considérable qui a été continu au cours des âges et qui se continue maintenant. On peut juger de la capacité de mémoire des récitateurs professionnels en les observant aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à l'écriture, qui ne s'intéressent pas aux livres. Maintenant, tous les Védas sont imprimés, ils ont été enregistrés, on a toutes sortes de moyens de les reproduire. Les récitateurs ne veulent pas lire. Alors j'en ai vu assez souvent, quelquefois dans la pratique, au cours de la pratique, dans les temples, qui quand même tiennent un livre. Alors ils m'ont expliqué qu'ils savent le texte par cœur, mais si on veut que le rite soit efficace, il faut que la récitation soit parfaite. Alors ils prennent le livre pour avoir un soutien et éviter de faire la moindre faute. Et les fautes sont faciles à faire. Il y a des combinaisons phonétiques difficilement prononçables, multiples, et puis des accents de hauteur qui n'appartiennent qu'à la vieille langue védique et qui n'appartiennent pas du tout aux langues maternelles des récitateurs. Donc ils ont un effort particulier à faire pour éviter la moindre faute. Ils gardent quelquefois le soutien de l'écriture, mais il faut bien retenir que le livre n'est qu'un soutien accessoire, un auxiliaire et peut-être un secours en cas de difficulté. Alors, les 11 modes de récitation, je peux vous en expliquer le principe. Il s'agit, et c'est ça qui constitue en fait tout l'art, il s'agit de donner plusieurs aspects de la même séquence de mots. Pourquoi plusieurs aspects ? Alors, il y a deux raisons. Une raison matérielle pour faciliter la mémoire et préserver la qualité du texte, préserver l'intégrité du texte, et puis d'autres raisons religieuses. Si on fait une seule récitation et que la mémoire achoppe sur un mot, et si on fait une faute sur un mot, à ce moment-là, par un deuxième mode de récitation, on peut repérer l'endroit où il y a une faute et éventuellement la corriger. Et puis s'il y a 3, et à plus forte raison, s'il y a 11 modes de récitation, ça fait autant de moyens de vérification de la correction du texte. Alors voilà l'intérêt des multiples récitations. Elles ne sont pas apprises pour un Véda entier, mais les règles de construction des différentes récitations existent. Les professionnels la connaissent, savent la pratiquer et ils font même des concours entre eux pour savoir qui ira le plus vite, qui récitera le mieux. La première récitation est appelée Samhita. C'est la récitation prise comme première base. C'est peut-être pas la plus ancienne, mais enfin, elle est prise comme base actuellement. Les mots sont liés entre eux. Il y a des élisions de phonèmes. On dit l'école au lieu de dire la école. Il y a beaucoup d'opérations grammaticales, phonétiques de ce genre en sanskrit. Et pratiquement toutes les finales et toutes les initiales de mots sont modifiées à leur contact. Par conséquent, la Samhita ne permet pas toujours de bien distinguer quels sont les mots qui se suivent. Alors il y a une deuxième récitation où les mots sont récités séparément avec une pause. Dans ce cas-là, le mot est isolé, on l'isole bien et puis sa finale apparaît, alors qu'elle était dissimulée dans la récitation liée.
Donc toutes ces codifications ont été installées peu à peu pour pouvoir préserver, conserver.
Oui, mais dès une époque très ancienne. Enfin, 3 sont très anciennes, les 2 que je viens de mentionner, et puis une troisième qu'on appelle Krama, la récitation pas à pas. On prend tous les mots par paire. Pour vous donner un exemple, ce qui est d'ailleurs l'exemple choisi pour le morceau que vous avez entendu tout à l'heure, une strophe qui donne les mots « Devim vacha majnanta devastam » deviennent, dans la récitation mot par mot, « Devim vacha majnanta devasta devaha tam » dans la récitation par paire. Alors on prend le premier, le deuxième, le quatrième, etc. Devim vacham, vacham ajanayanta, ajanayanta devaha, etc. Alors dans ce cas-là, chaque mot est répété deux fois. Il est répété une fois en fin de paire, c'est-à-dire sa forme quand il est isolé. Et puis il est répété au début d'une paire, c'est-à-dire quand il est soudé à un autre mot. Ce sont les trois récitations de base qui donnent des informations phonétiques fondamentales et qui permettent de comprendre, d'accéder au texte avec le moindre risque d'erreur. Vient ensuite alors ce qu'on appelle des vikriti, des altérations. On part de ces trois récitations de base, ou plutôt disons de pada, de la récitation mot par mot et de la récitation paire par paire, en les combinant entre elles. Alors, il y en a une qui est appelée Jata. Jata, c'est les nattes des sadhus indiens. Ils laissent pousser leurs cheveux, ils ne les lavent jamais, si bien que les mèches de cheveux s'agglomèrent entre elles en une masse compacte. C'est un peu une tresse, mais aussi une tresse très compacte. Alors, ça reproduit un petit peu l'agencement des mots que l'on donne à la strophe initiale. On prend la première paire, on inverse les deux termes et on la répète. On prend la deuxième paire, on inverse les deux termes et on la répète. Ce qui vous donne Devim vacham vacham, Devim devim vacham, vacham ajanayanta ajanayanta, vacham vacham ajanayanta. Alors là, les mots apparaissent plusieurs fois dans des situations différentes. Les combinaisons alors sont multipliées. Il y en a une qui est appelée guirlande. Dans une guirlande, eh bien, les fleurs sont placées, sont nouées sur un fil, les unes à côté des autres. Mais il y a toujours une pause entre chaque fleur. Alors là, on reprend le même principe, mais on met une pause après chaque paire. Devim vacham, vacham devim, devim vacham, etc.
En fait, ça fait très litanie.
Alors, c'est une litanie et je ne suis pas capable de réciter avec l'intonation juste et le rythme, parce qu'il y a un rythme particulier que l'on peut entendre sur l'enregistrement authentique. La sixième récitation est appelée Shika. Shika, c'est la mèche que le brahman porte au sommet du crâne. Il se rase les cheveux et à l'endroit où en Europe on met la tonsure, il laisse pousser une mèche. Alors, c'est quelque chose d'ajouté. Alors, c'est l'image d'une récitation dans laquelle on prend une paire, on l'inverse et ensuite on ajoute un mot en répétant la paire initiale. Devim vacham vacham devim devim vacham ajanayanta vacham ajanayanta ajanayanta vacham vacham ajanayanta devaha. Et puis on continue mot par mot. Vous avez Reka, la récitation ligne par ligne. Alors là, on construit des lignes en prenant chaque mot de la strophe, l'un après l'autre, en ajoutant un second, on inverse et on répète la même paire. Ensuite, on prend le second mot et au lieu d'en ajouter un seul, on en ajoute deux. On inverse, alors ça fait une série de trois mots, on inverse les trois mots et on répète la paire initiale. Ensuite, on prend le troisième mot du texte, on en ajoute trois. Ça fait une séquence de quatre.
C'est de la broderie, parfois.
On inverse. Devim vacham, vacham, devim, devim vacham, vacham ajanayanta devaha, deva ajanayanta vacham, vacham ajanayanta, ajanayanta devastam, vishvarupaha, vishvarupastam, deva ajanayanta, ajanayanta devaha. Vous avez dvaja. La récitation à la façon d'une bannière. Alors, une bannière qui a deux parties. Là, on prend le mot, la première paire de la récitation par paire, et on prend la dernière de la strophe. Ensuite, la seconde, et puis l'avant-dernière. Alors, ceci donne Devim Vacham et Tuitietu, Vacham Ajanayanta Aitu, Ajanayanta Devaha, Sushtuta Aitu, Sushtuta, Sushtuta Aitu. etc.
Oui, c'est une gymnastique d'esprit. Et on ne parle pas du contenu pour l'instant, on parle de la forme.
C'est le début de la formation. Dans le da, alors vous avez ici, on commence par une paire, ensuite on prend et on la retourne. Ensuite, on prend les trois premiers mots et on les inverse. Ensuite, on prend les quatre premiers et puis on revient toujours au départ. Ce qui donne devim vacham, vacham devim. Devim vacham, vacham adjanyanta, vacham adjanyanta, vacham devim. On revient toujours au mot initial devim. Devim vacham, vacham adjanyanta, adjanyanta devaha, deva adjanyanta, vacham devim. Et comme ça jusqu'à la strophe, si bien que la strophe finit par être récitée dans les deux sens, hein, depuis le premier mot jusqu'au dernier, et du dernier jusqu'au premier. Vous avez la récitation à la manière d'une charrette à deux roues. Alors là, on découpe la strophe en quatre vers, et puis on prend la première paire du premier vers, la première paire du second vers, ensuite la deuxième du premier, la deuxième du second, etc. Devim vacham tam vishvarupaha vacham devim vishvarupastam, et chaque fois on augmente d'un pas, d'un mot. Devim vacham tam vishvarupav vacham adjanyanta vishvarupav pashava adjanyanta vacham devim pashavo vishvarupastam, etc. Et alors la plus compliquée a une structure simple, mais elle est particulièrement difficile à réciter. Elle s'appelle Gana, c'est la récitation danse. Alors, ça regroupe un peu le principe de toutes les récitations précédentes. Là, on prend une paire, on la retourne, ensuite on prend trois mots, commençant par cette paire. On les retourne et on revient à la séquence de trois mots. Et puis on passe à la paire suivante. Devim vacham vacham devim devim vacham adjanyanta adjanyanta vacham devim devim vacham adjanyanta vacham adjanyanta adjanyanta vacham vacham adjanyanta deva deva adjanyanta vacham vacham adjanyanta devaha. Dans cette récitation, chaque mot finit par être répété cinq fois. Alors, si on apprend par cœur tout cela, eh bien, ça reste...
À partir de quel âge, les enfants? Parce que j'imagine qu'on leur apprend ça vers 6-8 ans.
Alors,
mais pas toutes ces méthodes-là, pas toutes ces manières de réciter.
Alors, graduellement.
Oui,
graduellement, et il faut une douzaine d'années pour maîtriser l'apprentissage du Veda, l'apprentissage du texte, et puis ensuite la compréhension. Alors pour l'apprentissage du texte, on commence par une cérémonie religieuse qui est appelée une sorte d'initiation. D'entrée, l'enfant vers l'âge de 7-8 ans quitte sa maison, va dans la maison du maître, et là, on lui donne, disons, une nouvelle paternité. Il va commencer ses études. Le rite est assez complexe, mais il est aussi très intéressant. C'est réellement... un rite de passage entre deux étapes fondamentales de la vie du brahman. Alors, pour le disciple, dans la théorie, dans la pratique, ça ne se fait pas toujours comme ça, surtout maintenant, mais dans la théorie, le disciple demeure dans la maison du maître, et le maître a la charge de le faire vivre. Et il lui enseigne, évidemment, et souvent à titre individuel. Le maître est efficace, pas devant une classe nombreuse, mais auprès d'un ou d'un tout petit nombre d'enfants. Pour le prêtre, alors il y a plusieurs méthodes pour faire apprendre par cœur. Le maître récite un mot, le disciple le répète trois fois, et puis il passe au mot suivant, le disciple répète trois fois. Après, le maître prend deux mots, les deux premiers mots, et fait répéter trois fois aux disciples. Ensuite, il prend un vers entier, il le fait réciter trois fois, il prend le vers suivant, il le fait réciter trois fois, et puis à la fin, la strophe entière qui encore est récitée. Donc, il peut y avoir 108 répétitions de la strophe entière au total.
Ce qui est un nombre particulier en Inde, 108.
Oui, c'est pas par hasard, mais c'est aussi un multiple intéressant. On arrive facilement au nombre 108. Et surtout s'il y a ce système de répétition par trois fois. Le maître, pour être sûr que le disciple enregistre bien, et enregistre bien en particulier les accents de hauteur. Il y a trois accents, un accent élevé, un accent modulé qui passe de l'accent élevé à un ton beaucoup plus bas. Alors ceci est important et appartient uniquement à la vieille langue védique, uniquement à ses textes. Et ceci doit être transmis. C'est considéré comme très important au point de vue religieux, au point de vue de l'efficacité de la formule qui doit accompagner toujours un rite. Alors pour le maître ajoute au Kerala, par exemple, le maître ajoute une indication visuelle. Il place l'accent élevé sur le sommet de ses doigts et il montre sa main au disciple, l'accent élevé, l'accent modulé, en faisant glisser le pouce sur le doigt et puis l'accent bas sur la base du doigt. Il y a plusieurs méthodes d'ailleurs, suivant les maîtres.
C'est une méthode gestuelle.
Et il y a aussi une méthode, alors disons, par le mouvement. Parce qu'au Kerala, on voit le maître qui met la main sur la tête de son disciple, il rejette la tête en arrière quand il y a le ton élevé et il la baisse quand il y a le ton bas. Il la rejette sur le côté aussi quand il y a certaines modifications particulières, phonétiques, de l'accentuation. Si bien que pour apprendre le Veda, il faut avoir une bonne mémoire et des bonnes vertèbres cervicales. Avec ces trois incitations, eh bien, le disciple graduellement apprend tout d'abord la Samhita. Et puis ensuite, il apprend, une fois qu'il a retenu la Samhita, le texte de base lié, avec mots liés, en entier. C'est déjà un texte d'une très grande dimension, hein. C'est à peu près 2 volumes de texte. On reprend le même texte mot par mot. Alors ceci est une précaution aussi pour préserver l'intégrité du texte. Parce que si on apprend en même temps mot par mot, bon, il risque d'y avoir confusion et transfert d'une faute d'une récitation à l'autre. Mais si on les sépare complètement et l'apprentissage de la première récitation avec mots liés dure déjà 2 ans. Ensuite, il faudra encore 2 ans pour la récitation mot par mot. Tous les professionnels et tous les brahmanes n'apprennent pas, ne vont pas souvent plus loin que la récitation mot par mot. Mais enfin, il y en a qui commencent krama. Et puis pour les altérations, alors là, je crois qu'il n'y a pas d'exemple où un brahmane ait appris un Veda entier de cette façon. Généralement, ils ont des échantillons qu'ils connaissent par cœur et qu'ils montrent, évidemment, qu'ils récitent très souvent. Ils ont toujours la capacité de construire ces 11 récitations puisqu'il y a un code pour chacune. Alors, l'apprentissage, je disais, il dure 12 années. Après cela, le brahmane, alors, a 2 devoirs, celui d'enseigner à son tour. Et comme l'enseignement est en principe individuel, il est nécessaire que tout récitateur se consacre à l'enseignement, de la même façon qu'il l'a apprise. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée que le Veda, le texte védique, est un héritage qui est transmis
De bouche à oreille, depuis 4000
ans. Uniquement par la mémoire. Et ça se pratique encore et toujours maintenant uniquement par la mémoire. Et puis, alors là, on en vient à la partie la plus importante, le contenu qui est religieux, et puis l'utilisation religieuse de ces...
Et psychologique aussi.
Mais
on va encore écouter des chants, ça sera notre dernière pause.
Si je peux introduire le chant qu'on va entendre brièvement. Le chant reprend le même texte que le Veda, donc il est appris comme le Veda. Le premier mode de récitation n'est pas différent. Il y a juste un réagencement de l'ordre de strophes, d'hymne à hymne. Mais après, il y a différents modes de récitation, dont un qui s'appelle Vayagana, c'est ce qui va être diffusé, dans lequel le chanteur, alors il a 5 notes de base et puis 2 altérations. Donc il arrive à 7 notes différentes. C'est un véritable chant. Le chant est ponctué, enfin le texte n'est pas énoncé dans le chant de façon continue. Il y a des vocalises qui sont placées régulièrement après telle ou telle syllabe. Il y a aussi des insertions très longues de vocalises, si bien qu'une strophe qui, à la lecture, ne dure qu'une demi-minute, peut durer 20 minutes.
Mais ça, c'est la beauté des chants.
Alors ça, c'est la caractéristique du chant. D'ailleurs, une strophe du Samaveda n'était jamais récitée par un seul chanteur, qu'on appelle Udgata dans la vieille religion védique. Il y avait toujours une présentation et puis une réponse, et puis une sorte de coda à la fin pour achever.
Plusieurs récitateurs chantaient.
Donc au moins 3 récitateurs, et il peut y en avoir plus.
Bon, nous allons écouter.
Vishwaroopa pashava pashava vishwaroopa pashava vishwaroopa pashava 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 pashava vishwa ब्राह्मणो मन्त्रा मन्त्रेतपिषम् मन्त्रा मन्त्रेषम् इषभोर्जभोर्जमिषभिषभोर्जम्.
Nous voyons la valeur religieuse et la valeur psychologique de ces Védas, de ces textes védiques.
La valeur religieuse, bien, il y a un caractère sacré pour ces textes. Ils n'ont pas d'origine, ils ont toujours existé. C'est un patrimoine qu'il faut conserver comme on veut conserver la religion. Et même si les rites se transforment, les pratiquants ont souvent l'impression que ça a toujours été la même chose. Ils disent c'est la tradition. Alors cette tradition, ce patrimoine dont on a hérité, eh bien on le préserve et on le sacralise en même temps. J'ai parlé de trois modes de base. Les mots liés, les mots séparés et puis la récitation pair par pair. Ce qui permet d'assurer l'intégrité phonétique du texte. Alors, on donne dans un texte déjà ancien trois noms différents et on leur attribue une valeur mystique, disons. C'est pour la récitation liée, on l'appelle Nirbucha. Dans ce cas-là, le mot signifie ce qui a les bras joints, parce qu'il y a une jointure entre le phonème final d'un mot et le phonème initial du mot suivant, comme deux bras qui se rejoignent au même corps. La récitation mot par mot, on l'appelle pratrinna, qui veut dire haché, découpé, coupé. Et puis la dernière, on l'appelle ubayamantarena, c'est-à-dire qui regroupe les deux. Alors la récitation liée, le nirbucha, est dit être sur le plan de la terre. Le pada est dit être sur le plan du ciel. Et il y a l'idée que par cette récitation, on accède à la terre ou aux activités de la terre ou bien
au ciel.
Au ciel. Et puis par Ubayamantarena, eh bien, on s'ouvre les deux possibilités. Alors, on pourrait reprocher à un brahmane qui récite seulement le Nirbucha d'être déchu de tout ce qui a rapport au ciel, puisqu'il est fixé.
Oui, il est resté sur la terre.
On peut dire la même chose à celui qui s'occupe uniquement du pratrinna et lui dire qu'il est déchu de tout ce qui se passe sur la terre. Alors, la seule solution, c'est de recourir à la double récitation, Ubayamantarena, par lequel on reste attaché aux deux. Et j'ai vu dans un texte d'un commentateur tardif, mais il est quand même du XIVe siècle, c'est un brahmane qui avait une connaissance extraordinaire de toute la littérature védique, Sayana, qui a vécu dans le sud de l'Inde. À propos de cela, il fait cette remarque. Il dit, si l'on récite uniquement et si l'on connaît uniquement la récitation liée, quand on entendra la récitation par mots séparés, on entendra certaines différences pour certains phonèmes, puisque en fin de phonème, la liaison n'existe plus. Et puis, il peut y avoir une différence d'accent aussi, et soupçonner que l'on fait une faute. Il emploie le terme de samskara. Par samskara, c'est, disons, l'après, la formation psychologique de l'esprit d'un homme qui lui donne l'habitude de ses activités. Le mot samskara est un mot banal qui signifie la préparation après d'une chose. Alors, il y a plusieurs sortes d'après.
Un peu l'apprentissage.
Apprentissage et puis préparation. Pour toute activité, il y a toujours quelque chose à préparer.
Oui.
À mettre tout le matériel ensemble, réunir les intervenants, etc. Donc, pour la parole, eh bien, il faut qu'il y ait une formation psychologique, une connaissance pour pouvoir, en prévoyance, de l'acte de parole, l'acte d'énonciation. Donc, tout ce qui s'accumule dans la mémoire forme une sorte d'équipement de l'esprit à une activité particulière donnée. Et évidemment, cela marque, c'est par la force de l'habitude, cela marque l'individu très profondément. Et un brahmane qui a passé une douzaine d'années dans son enfance pour apprendre un Véda entier est évidemment très fortement marqué par cela. S'il n'a fait qu'apprendre une seule récitation, celle liée par exemple, eh bien, il pourra s'étonner et soupçonner qu'il fait une faute ou soupçonner que son voisin qui est spécialiste de l'autre récitation fait une faute. Donc il faut en savoir au moins deux et il faut unir les deux récitations de base, mots liés, mots séparés, par la récitation double où on fait apparaître les deux en même temps. Donc voilà la motivation psychologique de ce procédé. Et c'est évidemment un procédé très puissant.
Oui, qu'on peut toucher dans tous les domaines, et je pense à l'inconscient.
Alors, là, avec la notion de samskara, d'après psychologique, eh bien, on touche à l'inconscient parce qu'on charge l'esprit d'une préparation en vue d'activités particulières. Évidemment, dès la naissance, on a une formation au langage. Le langage, d'ailleurs, est considéré comme un samskara. Et un samskara qui sera, disons, perfectionné, apprêté à la perfection si l'on étudie et si l'on a une bonne connaissance de la grammaire, c'est-à-dire si l'on a une bonne conscience de la structure de la langue que l'on emploie. On peut parler, un ignorant total peut très bien parler sa langue maternelle, mais il ne sait pas comment elle est construite. Celui qui sait la grammaire est mieux préparé à utiliser la langue. Alors, on appelle le sanskrit parce qu'il a été préparé de cette façon.
Alors, on peut faire de la grammaire par oral. On n'a pas besoin d'écriture pour faire de la grammaire. Alors, les grammairiens peuvent très bien naître.
Les grammairiens anciens sanskrits, d'ailleurs, ce sont des Indiens qui ont fait les plus anciennes grammaires d'une langue de l'humanité. On procédait tout à fait oralement.
Oui, c'était encore une gymnastique d'esprit, simplement une méthode de mémoire pour comprendre avec des codes extrêmement précis.
Et un perfectionnement de la mémoire.
Oui.
On est loin de nos jours de.
Oui, il va falloir qu'on conclue parce que, évidemment, c'est tellement riche, c'est une civilisation tellement riche que le moindre détail est tout un monde.
Oui, et je ne vous ai pas parlé de la pratique. Alors, rappelons très brièvement. Dans quelles circonstances utilise-t-on ce bagage extraordinaire qu'est la possession dans sa mémoire d'une aussi grande quantité de textes sacrés ? C'est évidemment dans les circonstances religieuses. Alors, à l'origine, les prêtres étaient formés pour cela, pour accompagner le sacrifice, tous les gestes du sacrifice. Le sacrifice ne se fait plus, mais il y a d'autres rites d'offrande et d'adoration aux dieux qui se font dans les temples. Couramment, il y a aussi encore quelques sacrifices dans le feu de formes différentes. Il faut des brahmanes pour accompagner cela. C'est pas concevable sans qu'il n'y ait pas de.
Il faut un intercesseur.
Il faut absolument l'énonciation, pas d'un autre, pas d'autres formules, mais de formules tirées du Véda. Il existe d'autres formules. On utilise en plus celle du Véda, même si la connexion initiale par le sens n'a plus de correspondance immédiate avec l'objet qui est adoré. Et on réinterprète quelquefois une stance védique pour l'adapter à un nouveau culte qui se fait maintenant. C'est une pratique assez courante. On utilise de façon générale la croyance en une vertu bénéfique de toute récitation védique. C'est quelque chose qui apporte le bon augure, qui apporte la chance. Alors dans toutes les fêtes, et même dans les cérémonies privées, un mariage, une naissance, on appelle un brahmane à la maison. Il y a des professionnels qui ne vont pas dans les temples, qui vont uniquement dans les maisons, dans les familles, pour accompagner les rites privés qui se font uniquement à la maison. Et puis, il y a quelques années, il y a eu une guerre entre l'Inde et le Pakistan. un des grands pontifes du monastère le plus important du sud de l'Inde, a entrepris pour le bien de sa patrie, pour le bien de l'Inde, pour sauver son pays, il a entrepris une récitation complète de toute la littérature védique.
Lui tout seul?
Pas lui tout seul, avec un groupe de brahmanes. Alors voilà, le quotidien d'un brahman, c'est de sa récitation personnelle, parce qu'il faut qu'il entretienne sa mémoire. Donc c'est un devoir quotidien que l'on appelle swadhyaya, la récitation personnelle, et qui est considéré un petit peu comme un sacrifice, comme une offrande. Alors c'est une offrande aux brahmanes. On dit que les brahmanes ont quatre dettes. Une dette aux dieux, une dette aux ancêtres, aux manes, une dette aux hommes, et puis une dette aux Védas. Alors, la récitation personnelle du brahman, c'est la façon de payer sa dette au Véda.
Le Véda, 4000 ans après, on lui doit toujours quelque chose.
On lui doit beaucoup.
Merci beaucoup, merci Pierre-Sylvain Filioza d'être venu jusqu'à nous pour nous montrer ce monde incroyable et si intellectuel, sensible mais intellectuel. Thank you.